Faut partir de la machine.
Faut partir de la machine.
Pas de donner mon micro. Et voilà.
Ça marche pas, mon père?
Il est fermé, c'est pour ça.
Non, oh, c'est l'ordinateur. Bonjour.
Bon.
Ça sera pas long, on va s'installer. Ça va bien, tout le monde?
Oui.
Content de revenir ce matin. Ça fait déjà quelques mois qu'on ne vous avait pas vu. Donc ce matin, on va terminer une série qu'on a commencée il y a quand même plusieurs mois sur les solas de la réforme. Et je sais que je me répète, mais 2017 était une année très importante qui a vraiment marqué le cours de l'histoire et le cours de l'Église. Parce qu'il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, M. Martin Luther est allé poser ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg et ça a changé complètement le cours de l'histoire et le cours de l'église comme on le connaît aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que l'église catholique a été séparée avec l'église qu'on avait aujourd'hui, l'église protestante, dont on fait partie. On a déjà vu 4 solas. On a commencé avec sola scriptura. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sola scriptura, on avait dit que la parole de Dieu est l'autorité suprême et finale dans nos vies et dans l'Église. Ensuite, on a regardé sola fide, que c'est seulement par la foi qu'un homme ou une femme peut se tenir justifié, déclaré juste une fois partout, pour tout, par la foi seulement. Ensuite, on a vu sola gratia, que c'est seulement par grâce que Dieu nous appelle. Pas parce qu'on est beau, on est fin, on sent bon, mais c'est seulement à cause de la grâce de Dieu qui nous appelle. Le dernier message en décembre, on avait vu solus Christos. C'est par Christ seulement qu'on peut être sauvé. Pourquoi? Parce que Christ était le seul qui était à la fois 100% homme et 100% Dieu. Il était le seul qui pouvait enlever les péchés et personne d'autre. Et ce matin, on termine, finalement, avec Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. C'est le dernier cri, je dirais, de la réforme que les réformateurs nous ont laissé. À Dieu seul soit la gloire. Et si je vous ai rappelé, je vous avais dit, je sais que je me répète, mais ça a l'air que les professeurs d'école font ça pour que ça rentre. Donc, je vais me répéter ce matin. Le petit mot « seulement », hein, « sola » veut dire « seulement ». Et c'est un mot qui est tellement, qui a tellement signifié, 4 lettres en latin, « sola », mais qui fait toute la différence. Parce que quand tu mets « sola », quand tu mets « seulement », qu'est-ce qui arrive? L'entonnoir se rapetisse pas mal. Vous d'accord? Hein? Souvent, les gens vont dire « ben voyons donc, c'est bien trop radical, ça ». Ben oui, il y a la Bible. Mais il y a d'autres livres, là. Il n'y a pas juste la Bible. Non, l'autorité finale, c'est la Bible seulement. Par la foi. Mais oui, il y a la foi, mais il n'y a pas juste la foi. Là. On peut ajouter un petit peu de quelque chose d'autre aussi, là. On a notre part à jouer, voyons. Hein, par la grâce, oui, c'est la grâce de Dieu, mais c'est sûr que, quelque part, pas juste la grâce, là. Ou Christ, hein, Christ seulement. Les gens vont dire, ben oui, il y a Christ, mais il y a aussi il y a Bouddha, il y a. Tu sais, il y a plein d'autres prophètes, là. Le petit mot seulement fait toute la différence. Et malheureusement, on vit dans un monde aujourd'hui où si on dit « par la gloire, pour la gloire de Dieu seulement », les gens vont dire « ben oui, on va. » Oui, il y a la gloire de Dieu, mais pas juste la sienne. On vit dans un monde de « me, myself and I ». Vous d'accord? Hein? On aime ça se regarder le nombril. C'est dans un monde, c'est le monde qu'on vit dedans. Donc, quand on arrive et qu'on dit « pour la gloire de Dieu seulement », Ça peut être offensif, mais c'est ce que les réformateurs nous ont laissé pour la gloire de Dieu seulement. J'aimerais qu'on tourne dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Où c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens 10, 31. L'apôtre Paul nous dit, « Si donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour qui? » Faites tout pour la gloire de Dieu. Du même quand vous mangez, quand vous buvez, faites-les pour la gloire de Dieu. Et ce matin, sur l'Idéa Gloria, j'aimerais le regarder en trois points. Premièrement, pourquoi c'est si important pour les réformateurs de dire « Soli Deo Gloria » Pourquoi c'était tellement important pour eux de dire « À la gloire de Dieu seulement » Le deuxième temps, on va regarder qu'est-ce que la Bible en dit sur la gloire de Dieu. C'est une invention des réformateurs, ce truc-là. Mais finalement, la gloire de Dieu dans nos propres vies, ça change quoi le lundi matin? J'ai bien aimé, j'ai écouté un message, il n'y a pas tellement longtemps, d'un prédicateur que j'aime beaucoup, j'en parlais dans Matthieu tantôt, de Steve Lawson. Puis il dit, j'étais dans mon cours une journée de prédication. Puis il dit, mon professeur, durant la, à peu près au milieu du cours, est arrivé, puis il a juste levé une pancarte, puis ça a marqué dessus, « So what? » Change quoi dans ma vie, de tout ce que tu es en train de me dire? Et c'est ça le troisième point ce matin, « So what? » Oui, à Dieu soit la gloire, mais ça change quoi dans nos vies? Lundi matin, quand on va sortir, puis on va aller travailler, aller à l'école, avec nos enfants. Ça change quoi, sola deo, soli deo gloria? C'est ça le troisième point. Donc, le premier point, pourquoi est-ce que c'était si important pour les réformateurs, la gloire de Dieu? Bien, c'est simple. Parce que l'Église a volé la gloire qui appartenait à Dieu seulement. C'est aussi simple que ça. Le pape et ses acolytes ont volé la gloire qui appartenait à Dieu seulement, et ça a duré pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, quand la réforme est arrivée, les réformateurs ont dit, nous, on va remettre à Dieu ce qui lui appartient, sa gloire. Et j'aimerais vous démontrer 5 manières différentes comment l'Église a volé la gloire qui appartenait à Dieu seulement. La première manière, on a mis l'autorité du pape au-dessus de celle de Christ. Le pape se nomme comment? Le chef de l'Église. Vous d'accord? C'est ce qu'il dit, hein? Le Saint-Père, le chef de l'Église. Tournez avec moi dans Éphésiens 1. On va regarder ensemble. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alors, on avait commencé à regarder le livre d'Éphésiens il y a à peu près un an. Et on retourne ce matin. Éphésiens 1 dit ceci au verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sur ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est qui le chef suprême de l'Église? C'est Christ. Mais le pape a pris cette autorité-là, il s'est dit, c'est moi le chef suprême de l'Église. Et les réformateurs ont dit, non, cette gloire-là elle appartient à Christ seulement. Tu l'as volée, on va la remettre à qui? À vous. La deuxième chose qu'on a volée à Dieu, c'est qu'on a mis la tradition au-dessus de la parole de Dieu. La tradition est devenue plus importante de ce que la Bible disait. Pourtant, Jésus a repris sévèrement les pharisiens pour avoir fait exactement la même chose. Marc 7, 8 et 9 nous dit ceci, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il a dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » L'Église a volé la gloire de Dieu en disant, « La tradition est plus importante de ce que la Bible enseigne. » Et le vol n'a pas arrêté là. Ils ont ajouté les œuvres à la foi. Pourtant, il est clair. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit quoi?
Par
la grâce seulement, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Quand on se glorifie, qu'est-ce qu'on fait? On vole ce qui appartient à Dieu. La gloire du salut, elle appartient à Dieu et on la prend à nous. Et Dieu dit non, ça ne marche pas comme ça. Le salut, la gloire qui va avec le salut, ça m'appartient à moi. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous vous glorifiez. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. Ensuite, en passant par un intermédiaire, comment? Si tu veux parler à Dieu, passe pas par Jésus, passe par Marie ou par les saints. Parce que Marie, c'est la mère de Jésus, elle a une manière d'amadouer Jésus. Hein? Donc, passe par Marie ou passe par les saints. Et je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai découvert qu'il y avait un saint pour chaque situation et pour chaque métier. Le saint des amoureux, c'est qui? À Saint-Valentin. Le saint des causes désespérées, Saint-Rita. Le saint des motards, Saint-Colombin. Le saint des voyageurs, il y en a deux, Saint-Christophe, Saint-Gertrude. Même nous, au Québec, on a notre propre saint. Hein? Ça va comment il s'appelle?
Saint-Jean-Baptiste.
Et j'ai découvert qu'il y a même un saint pour l'Internet. Son nom, c'est pas Saint-Python, comme ma femme a dit. Il s'appelle Saint-Isidore de Séville. Imaginez-vous, il y a même un saint pour l'Internet. J'ai trouvé une liste de 265 pages de noms des saints qui existent aujourd'hui dans l'Église. Juste dans la lettre A, il y en a 132. Imaginez-vous. Mais qu'est-ce que Dieu dit à travers de la bouche de Paul à ce sujet-là? 1 Timothée 2, 5 et 6 nous dit ceci. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » On peut passer par Dieu sans intermédiaire. On n'a pas besoin des saints. Mais l'Église a volé ce qui appartenait à Christ pour se l'approprier et le donner aux saints. Et finalement, par l'adoration des statues et des reliques. Pourtant, Hitler, Exode 4, nous dit ceci. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, ni en bas sous la terre, ou qui sont dans les eaux plus basses que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Isaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. » Exode 31, 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Et c'est pour ça que les réformateurs lui ont crié haut et fort durant la réforme, Soli Deo Gloria, à Dieu seul se voit la gloire. L'Église a volé la gloire de Dieu, et les réformateurs lui ont dit, on va redonner à Dieu ce qui appartient à Dieu, la gloire. Et voilà des exemples de comment on a volé la gloire de Dieu. Pourquoi c'était tellement important pour les réformateurs de revenir à cette vérité-là? Il y en a même qui sont morts pour cette vérité-là. Jean Calvin a dit ceci, « Nous ne sommes jamais vraiment glorifiés en lui jusqu'à ce que nous ayons complètement rejeté notre propre gloire. Les élus sont justifiés par le Seigneur afin qu'ils puissent lui rendre gloire à lui seul et à personne d'autre. » Personne d'autre. Le catéchisme de Westminster dit ceci, il pose une question, « Quel est le but principal de l'homme? » La réponse, le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Le but de l'homme est de rendre gloire à Dieu. Pas de prendre la gloire pour lui, mais de la rendre à Dieu. Puis ce même catéchisme-là nous dit ceci: Dieu est totalement glorieux et il se glorifie dans toutes ses œuvres. Donc voilà pourquoi c'est assez important. Mais certains vont peut-être dire, ouais, mais les réformateurs, ils vont peut-être inventer ça. Hein, la gloire de Dieu, c'est-tu biblique, ça, qu'on rende gloire à Dieu? Ben oui, ça l'est. 369 fois dans l'Ancien Testament et 269 fois dans le Nouveau Testament, le nom gloire revient. Et la grande majorité du temps, c'est la gloire de Dieu. Plus de 600 fois dans la Bible, le mot gloire revient. Est-ce que c'est important pour Dieu? Oui, c'est important. C'est même, je dirais, primordial. Donc, premièrement, la Bible nous démontre que Dieu est glorieux. Comment? Ouvrez la première page de votre Bible, qu'est-ce que vous voyez? La création. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous démontre plus la gloire de Dieu que la création? La première page de la Bible. Dieu parle, la chose arrive. Simple comme ça. Notre Dieu est le seul qui peut créer toute chose à partir de rien. Psaume 33,9 nous dit ceci: que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est un peu comme chez nous. Ma femme me dit, moi je le fais. Pas vrai. Un autre psaume 19,1. Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent quoi? La gloire de Dieu. Les cieux nous racontent une histoire. Combien on a un Dieu glorieux. Et à la première page de la Bible, on voit un Dieu de gloire. Et elle est à la fin de la Bible, l'Apocalypse. Et c'est exactement la même chose. On voit la gloire de Christ. Tournez avec moi dans Apocalypse 5, 12. Apocalypse 5, 12 nous dit ceci. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé. » Et c'est qui l'agneau qui a été immolé? C'est Christ, hein? « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » 7:12 En disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » 15, verset 8. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Et il y en a d'autres versets comme ça. L'Apocalypse est rempli de la gloire de Dieu, du début à la fin. Et entre, on voit la gloire de Dieu partout. Je vais vous donner des exemples. Le déluge nous démontre la gloire de Dieu. La libération du peuple d'Israël. Imaginez-vous la force de Dieu juste pour ouvrir la mer Rouge, pour que la mer se rouvre et que son peuple puisse passer à sec. Dieu a pu nourrir et donner de l'eau à des gens, environ 2 millions de personnes pendant 40 ans. Et j'ai fait un petit calcul. Selon l'armée américaine, ça prend à peu près 3,8 litres d'eau par jour pour survivre dans le désert. Donc, tu prends 3,8 litres d'eau, tu multiplies ça par 2 millions de personnes, tu dis, OK, donc ça donne X nombre de mille. Tu divises ça par un camion citerne, qui est 131 000 litres d'eau. Donc, ça prendrait 58 camions citernes remplis d'eau à tous les jours pour donner de l'eau à 2 millions de personnes. Donc, c'est comme si tu mettais un kilomètre de camion en arrière de l'autre. À tous les jours, pendant 40 ans. Ça, c'est juste là. Est-ce qu'on a un Dieu glorieux? On a un grand Dieu. La Bible nous démontre que Dieu est un Dieu de gloire. Puis on n'a pas parlé encore des miracles de Jésus. Hein? Jésus a fait des guérisons, des résurrections, il a marché sur l'eau, nourri des foules, la transfiguration, combien d'autres choses? Combien d'autres choses? Il y a tellement de choses que l'apôtre Jean nous dit dans Jean 20, 21, si l'on écrivait en détail, il n'y aurait pas assez de livres dans tout le monde pour les contenir. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Et c'est pour ça que les réformateurs sont tellement importants, parce que c'est dans la Bible. La gloire de Dieu est présente partout dans la Bible. Mais la Bible ne fait pas seulement que nous le démontrer. La Bible déclare que Dieu est glorieux. Elle nous le démontre, mais elle nous le dit aussi. Et où la différence entre nous et Dieu, c'est que Dieu est infini. Dieu n'a pas de limite. Dieu est grand. Dieu est fort, comparément à nous autres. On a des êtres finis, et lui, il est infini. Et je me regarde des fois le matin, et je pense que je suis pas mal plus fini que d'autres membres. C'est ce qu'on veut dire. Mais Dieu est infini. Dieu est glorieux. Et vous savez, quand on dit on rend gloire à Dieu, on n'ajoute rien à Dieu. Là. Dieu est glorieux dans qui il est. Avant que Dieu crée les anges, avant que Dieu crée le monde, Dieu était glorieux. Fait qu'il faut comprendre que quand on rend gloire à Dieu, on n'y ajoute rien à Dieu. Il est qui il est. Et il nous demande quand même de lui rendre gloire. Ça, c'est important. A.W. Tozer a dit ceci. Combien il est satisfait de se tourner de nos limites pour se tourner quelqu'un vers quelqu'un qui n'en a pas. Je vais le relire. Combien il est satisfaisant de se tourner dans nos limites vers quelqu'un qui n'en a pas. Hein, que dans nos limites, on se tourne vers un Dieu qui n'en a pas de limites. Un Dieu glorieux. Et je vous dis que la Bible nous le déclare, je vais vous le démontrer. Psaume 8, 2, psaume de David, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est un cantique qu'on chante. Psaume 24, 7 et 8. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et ça, l'image, c'est un roi qui rentre dans Jérusalem. Et c'est Dieu qui rentre. Et c'est, il est tellement grand qu'il ne fait même pas dans la porte. Il dit, oh, hey, l'inteau, poussez-vous, levez-vous. Il ne fait pas dans la porte. Pour nous démontrer la gloire de ce Dieu qui arrive dans Jérusalem. Psaume 104, 31 dit ceci. Que le Dieu, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. C'est un autre chant qu'on chante aussi. On ne parle pas ici d'une gloire qui part, qui passe, mais d'une gloire qui va durer pour l'éternité. Qu'elle subsiste à jamais. On a des gens qui sont glorieux dans notre monde. Ils disparaissent, ils passent. Mais la gloire de Dieu a toujours été et va toujours être. On a un Dieu glorieux. Et troisième chose que la Bible nous dit, c'est qu'elle nous ordonne de lui rendre gloire. C'est un commandement de rendre gloire à Dieu. Psaume 21 et 2, psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Psaume 68, 33 à 35. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force, la puissance. Béni soit Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu ce matin? Est-ce que tu as un Dieu fort et puissant, glorieux?
Ben oui.
J'ai eu peur là. Je pensais que je m'étais trompé de place. Est-ce que vous avez un Dieu fort, glorieux, au-dessus des cieux?
Oui.
Bien, la Bible nous dit, rendez gloire à Dieu pour ça. Parce qu'on a un Dieu glorieux. Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Hey, j'ai vraiment eu peur. Je pensais que j'étais à la bonne place. Mais c'est beau de dire à Dieu soit la gloire. Mais comment on fait ça? Comment on rend gloire à Dieu? Parce que je vous disais tantôt, on change quoi de nos vies ce matin? Puis lundi matin. Mais je dirais, comment vivre à la gloire de Dieu? Mais la Bible nous en donne des réponses. Par notre foi, par notre adoration, par nos paroles, par notre service, par notre attitude, par notre amour les uns pour les autres. La première manière, comme je vous ai dit, c'est par nos actions. Quand les gens nous regardent, est-ce que les gens voient la gloire de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'ils voient la gloire de Dieu dans ma vie? Est-ce que la gloire de Dieu se reflète dans ma vie? Rappelez-vous de Moïse quand il est monté sur la montagne, quand il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Il flashait tellement qu'on lui a mis un voile. Parce que Moïse était dans la présence de Dieu, ça se reflétait. La gloire de Dieu se voyait à travers lui. Et on est appelé à faire la même chose. Que les gens puissent voir Christ à travers nous. Qu'on puisse refléter qui est Christ. Paul nous a dit tantôt dans 1 Corinthiens 10, « Donc, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faites quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Paul dit même quand tu manges, là, quand tu bois, là, tu peux rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de boire et de manger? Mais Paul dit quand tu fais ça, même ça, fallait à la gloire de Dieu. Et vous savez, c'était vraiment révolutionnaire pour le temps, quand les réformateurs ont commencé à dire ça. Parce que dans l'Église, ce qui était important, c'était le sacré. Ceux qui vivent dans les monastères, les sœurs cloîtrées, les prêtres, ça c'est important. Le fermier qui travaille dans un champ, la petite madame qui fait son pain chez eux, c'est pas important pour Dieu. Les réformateurs ont dit non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Chacun de nous, on est appelé à rendre gloire à Dieu. Même quand on mange, et même quand on boit. Et ça, c'était une révolution pour les gens du temps. Parce que on nous avait toujours enseigné que si tu veux vraiment rendre gloire à Dieu, là, ben, va te cloîtrer dans un monastère, puis va prier du matin au soir, puis faire toutes des fouettes. Là, tu vas rendre gloire à Dieu. Mais si tu travailles dans ton champ chez vous, ça ne change rien dans la gloire de Dieu. Les formateurs ont dit, c'est pas vrai ça. Paul nous dit, mange et bois même pour la gloire de Dieu. Eugène Edwards a dit ceci. Pour un chrétien conscient de sa vocation, toutes les facettes de notre existence, même les choses les plus plates, deviennent des raisons pour rendre gloire à Dieu. Et là, il donne des exemples. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, t'amène un repas au restaurant, ramasse après toi, bâtis ta maison, prêche un sermon, reçois sois reconnaissant pour les humains que Dieu utilise autour de toi pour te bénir et lui rendre grâce pour ses cadeaux non mérités de sa part. Dire merci à Dieu, ça rend gloire à Dieu. Et on a bien des choses à dire merci. Vous d'accord?
Oui.
On regarde comment les gens vivent dans d'autres pays, puis on se dit, mon ami. Je lisais un livre il n'y a pas très longtemps sur l'Église, puis on disait qu'il y a à peu près 30 ans passés, 80% des gens vivaient dans la pauvreté. Puis on disait, là, ça s'est vraiment amélioré, on aurait dit à 70%. Waouh! Hey, au lieu de faire partie du 20%, on fait partie du 30% qui n'est pas des pauvres. On est vraiment, vraiment des gens bénis. Et Dieu dit, rendez-moi gloire pour ça. Rendez-moi gloire pour ça. Il dit, est-ce que tu savoures ta nourriture en rendant gloire à Dieu pour les mains qui l'ont préparée? Es-tu touché par un chef-d'œuvre, une belle teinture, une pièce de musique avec les Gators? Hein? Tabarouette! Dis, est-ce que tu es touché par une belle pièce de musique, un cantique, un bon film? Rends gloire à Dieu qui t'a donné ces artistes pour que tu puisses en profiter. Est-ce qu'on a des raisons de rendre gloire à Dieu? Il y en a plein. Plein. Il y a plusieurs manières de rendre gloire à Dieu. Pour sa bonté, pour sa grâce, pour tout ce qu'on a. Et je dirais que j'ai besoin d'apprendre à dire Dieu merci, merci Seigneur, pour ce que j'ai plutôt que pour ce que j'ai pas. On a besoin d'apprendre ça. En tout cas, j'ai besoin d'apprendre ça. Donc, premièrement, rendre gloire à Dieu par nos actions, notre foi, nos paroles d'encouragement, notre service, notre attitude, notre amour les uns pour les autres, notre reconnaissance. Mais aussi, une deuxième manière de rendre gloire à Dieu. Et David était un chef, un maître dans ça. C'était un expert dans l'adoration et la louange. Par nos chants, par nos partages, par nos actions de grâce. Qui a écrit la majorité des psaumes?
David.
Et qu'est-ce qu'ils sont, les psaumes?
Des chants.
Des louanges, des cantiques, pour rendre gloire à Dieu. David avait le cœur tellement plein qu'il ne pouvait pas se retenir. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est écrire des cantiques. Parce que son cœur débordait de la gloire, de chanter, de parler, de crier la gloire de Dieu. Et il est appelé à faire la même chose. Pas juste dans nos actions, pas juste dans nos paroles, par nos chants dans l'Église, qu'on peut se rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Psaume 104, 33-34 nous dit ceci. « Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. » Psaume 145, verset 1. « Louange! Louange de David! Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Même quand ça va mal. Et des fois, ça va mal dans nos vies. David a eu des temps bas. Mais il dit, je veux te célébrer et te rendre gloire à chaque jour. Psaume 95. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, les mains qui l'ont faite. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes les peuples dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. On est un troupeau que Dieu conduit. Même quand ça fait mal. Et tantôt, je disais, il trace de pas. Hein? Vous avez déjà vu ça, hein? Il y a des places que juste une trace de pas. Il dit, Seigneur, il était à vous quand ça allait mal. Comment ça fait quand il y a une trace de pas? Tu m'as laissé tomber, Seigneur. En tout, mon gars, tu avais sur mes épaules. C'est mes traces à moi qui étaient là. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple dont il est le berger. Dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns et les autres dans la crainte de Christ. Et il y en a d'autres versets. J'espère que pour vous, cette série-là a été quelque chose qui vous a encouragé. Moi, je vous dirais, ça a été pour moi, ça a été vraiment révélateur. Je me suis aperçu de mon ignorance de l'histoire de l'Église. Mais vous savez, aujourd'hui, si on peut créer ces sols-là, il y a des gens qui sont morts pour ce qu'il y a là. Et nous, on va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec le fait que la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême dans l'Église? Que c'est par la foi seulement, par Christ seulement, par la grâce de Dieu seulement, à la gloire de Dieu seulement. Est-ce qu'on va lever ça ou on va juste l'oublier? J'espère que non. Parce qu'il y a des gens. Si on a des bibles dans nos mains, je sais que je me rappelle. Il y a des gens qui ont payé très cher pour les bibles dans nos mains. Moi, je me rappelle, je sais, je l'ai dit, puis je l'aurais dit encore quand j'étais allé à Los Angeles il y a 2 ans, que M. Lawson a levé une bible dans sa main. Il a dit, cette bible-là, c'est une des 3 bibles qui existent de 1534. Et cette bible-là, elle est tachée de sang. Parce que l'homme qui l'a écrit a été pendu au bûcher. On l'a brûlé et on l'a fait exploser pour le détruire, pour le démolir cet homme. Mais la Bible est encore là. Et pour moi, les sols-là, ça a été une révélation de dire comment, et je le dis d'une manière, mon ignorance, comment je ne connaissais pas l'histoire de l'Église et comment ça a coûté cher à des hommes pour croire ce qu'on croit aujourd'hui. Moi, je remercie le Seigneur pour toutes les lectures, les dizaines d'heures que j'ai passées à écouter des messages, des vidéos. C'était vraiment un privilège. Et je remercie le Seigneur pour ça. Parce que c'était vraiment pour moi un changement, une révélation. C'est moi qui étais vite ou les jeux sont morts?
Parce que le début a été très rapide.
Parce que d'habitude, je suis retourné après mon temps, puis là, c'est.
C'était bon.
Caroline. On va te dire pas mal aujourd'hui. J'aimerais juste finir avec une citation d'un des auteurs qui était dans des livres que le Seigneur m'a permis de lire pour préparer cette série-là. C'est un monsieur qui s'appelle David Van Drunen. Ou quelque chose comme ça. Il dit ceci. Nous qui avons mis notre confiance en Christ, donnons-lui toute la gloire. Donnons toute la gloire à Dieu et craignons-le avec une humble révérence. Craignons-le humblement à cause de tous ses attributs, de toutes ses œuvres. Que Dieu se glorifie dans toutes ses œuvres. Que nos pensées et notre adoration révèlent la gloire du Dieu vivant. Même dans un âge de distraction et de narcissisme. Vous savez c'est quoi le narcissisme? Quelqu'un qui... C'est narcissique, c'est ça? Tu trouvais tellement beau, puis il a tombé dans l'eau, puis c'est naïf. On vit dans un monde comme ça. Que nous puissions le craindre et le glorifier spécialement pour avoir fait le nécessaire à un aussi grand prix de sa part. Racheter des pécheurs et faire de nous des citoyens d'un royaume glorieux qui ne sera jamais détruit. On parle de la gloire de Dieu. Mais si vous êtes en Christ un jour, vous allez voir la gloire de Dieu. Et j'espère que je vais me rappeler de dire « Soli Deo Gloria » cette journée-là. Quand je vais voir la gloire de Dieu face à face. Racheter des pécheurs et faire de nous des citoyens d'un royaume glorieux qui ne sera jamais détruit. Nous qui ne méritions pas ce grand salut, vivons pour la gloire alors que nous attendons la levée du jour où il nous révélera alors sa gloire, ensemble avec son Fils. Et moi, je vous dirais, qu'on n'ait pas peur, comme nos frères du passé, de tenir à certaines vérités, certains absolus. De plus en plus, on veut nous faire croire qu'il n'y en a plus d'absolu. Mais ce n'est pas vrai. Mais est-ce qu'en tant que peuple de Dieu, on va se tenir debout et on va dire, il y en a des absolus. La Bible, c'est la vérité, puis il n'y a rien d'autre. Puis si tu veux connaître Dieu, c'est juste par Christ. C'est juste par la foi. Est-ce qu'en tant que peuple de Dieu, on veut faire ça? Défendre ce que d'autres sont morts pour que nous autres, on puisse l'entendre aujourd'hui? J'espère que oui. Donc, je veux simplement terminer en disant, sola scriptura, sola fides, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. À Dieu seul, soit la gloire. Amen.
Amen.
Je termine par la prière. Mon Père, quand même, je veux te dire merci. Merci parce que malgré ma folie, Seigneur, tu m'as vu. Tu m'as appelé. Tu m'as sauvé. Seigneur, quelle grâce. Quel cadeau mérité. Et en retour, Seigneur, je te demande vraiment de donner un cœur qui veut te rendre toute la gloire qui te revient. Parce que mon orgueil, Seigneur, bien souvent m'empêche de le faire. Combien tu es un Dieu glorieux. Combien la Bible nous parle de ta gloire. Combien la création nous parle de ta gloire. Seigneur, c'est ma prière, c'est qu'on puisse refléter cette gloire-là dans un monde de ténèbres qui est en train de mourir, Seigneur, dans sa noirceur. De nous, comme les réformateurs, Seigneur, d'avoir un cœur pour garder la vérité. Garder ta vérité jusqu'à temps que tu reviennes. Encore une fois, Seigneur, merci, merci pour ta patience, ta grâce, ta bonté. Merci pour l'Église, Seigneur, de Foxbury. Je te demande dans ta grâce de vraiment la garder, d'en prendre soin. Prends soin des brebis aussi, Seigneur, qui souffrent. Seigneur, je sais qu'il y en a pour certains, c'est difficile. Mais combien tient Dieu compatissant? Seigneur, encore une fois, merci. Et merci parce que tu reviens. Merci parce qu'un jour, tu dis que tu vas enlever les larmes de chacun de nos yeux. Et elle n'aura plus de pleurs. Et on va pouvoir te voir vraiment pour qui tu es vraiment. Et on pourra te dire à toi seul, sois la gloire. Parce que si on est là, c'est juste à cause de toi. Encore une fois, Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.